Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci d'être fidèles au programme de Canal Académie et bienvenue pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire consacrée aux lettres de cachet. Souvenez-vous de vos cours d'histoire et tout particulièrement de seconde, nous sommes au crépuscule de la monarchie française et dans la grande table rase que constitue la Révolution, les lettres de cachet, symbole du pouvoir royal, sont abolies au même titre que les privilèges, la religion d'État ou bien encore la couronne royale. Les lettres de cachet étaient écrites par le roi ou au nom du roi. Elles signifiaient la volonté du souverain de condamner une personne à l'exil ou bien à l'emprisonnement. La lettre de cachet reste dans nos mémoires comme le symbole de l'arbitraire, je cite, « instrument de répression à la fois injuste et aveugle, frappant comme la foudre des victimes stupéfaites ». Un verbe fut même créé pour désigner ce type d'emprisonnement, embastillé. Or, chacun sait qu'il n'y avait pas 10 personnes dans la dite prison un certain 14 juillet 1789. Je vous propose donc, au cours de cette émission, de faire la part du mythe et de la réalité sur une procédure qui, contrairement aux idées reçues, était non seulement acceptée par la population, mais aussi largement désirée par celle-ci. D'ailleurs, le grand Voltaire lui-même ne l'a-t-il pas utilisé alors qu'il la critiqua par ailleurs? Quand apparaissent les lettres de cachet? Quelles furent leur place dans la société d'Ancien Régime? Dans quelles circonstances étaient-elles utilisées? Et quel était le sort des prisonniers et autres embastillés en question? C'est ce que nous allons voir avec Claude Quettel. Claude Quettel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes historien, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste de la psychohistoire, on peut utiliser ce terme?
Oui, c'est moins à la mode en France, mais aux États-Unis, c'est tout à fait établi. C'est un bien grand mot pour essayer d'expliquer, c'est le cas de le dire, qu'on entre dans une histoire qui se penche un tout petit peu plus sur le pourquoi que sur le comment.
Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages, j'en citerai 3. Tout d'abord, Une histoire de la folie chez Talandier, paru en 2009, 3 récents. Vous avez écrit, et c'est important pour l'Académie, un livre consacré à la Bastille, Histoire vraie d'une prison légendaire chez Robert Laffont, 1989. C'est un livre qui a reçu le prix de l'Académie française et le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a été réédité d'ailleurs en 2006
chez Larousse.
Et enfin, vous venez de publier chez Perrin Les lettres de cachet, une légende noire. Ma première réaction à la lecture de votre livre, Claude Quettel, est la suivante. J'étais étonné de voir l'importance des sources, l'importance, le volume des lettres de cachet. Or, malgré celle-ci, malgré ce volume qui s'est toujours offert à l'historien, eh bien, le mythe des lettres de cachet ne s'est jamais dissipé.
Ben oui, on est tout à fait au cœur du sujet. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre les mythes? Ma réponse, on ne peut pas lutter contre les mythes. Les mythes sont indestructibles. Et alors, pourquoi lutter? Alors à ce moment-là, les chants désespérés sont toujours les plus beaux, etc. D'autant plus que mon propos n'a pas été du tout d'entrer dans une lutte, pas au départ. Moi, vous savez, je suis comme les policiers, j'enquête. J'enquête. Donc, j'ai enquêté sur les lettres de cachet. Je me suis beaucoup promené, si on peut dire. La promenade a souvent été ardue dans les archives. J'ai découvert que c'était un phénomène massif, qu'elles étaient très rarement à la diligence du souverain, beaucoup plus souvent à la diligence des familles, et que par conséquent, elles étaient une institution librement acceptée, librement consentie par la majorité des Français, et pas seulement les privilégiés, bien entendu, mais par les petits artisans, les bourgeois, le boulanger du coin qui simplement voit son fils qui commence à tourner mal et qui essaie de l'arracher aux mains de la justice, dans les mains desquelles il ne va pas tarder à tomber à force de faire l'imbécile. Et d'un seul coup, la lettre de cachet elle devient comme un instrument de correction. Donc c'est une espèce d'institution policée, acculturée, beaucoup plus au XVIIIe qu'au XVIIe siècle, mais qui apparaît à la Révolution comme un instrument exceptionnel, comme un instrument épouvantable, au coup par coup, dans les mains du souverain, alors que ce n'est pas du tout cela. Ça a pu être ça, mais 3 siècles avant.
D'où vient le mot ? Quelle est l'origine de la lettre de cachet ?
Alors là, la question n'est pas simple, parce que moi j'ai l'impression que les lettres de cachet n'ont pas de cachet, enfin, ou pas souvent des cachets. Alors on va dire que oui, peut-être au XVIe siècle, lorsqu'elles naissent, elles ont un caractère tellement exceptionnel qu'effectivement, elles peuvent revêtir une forme un peu lourde, un peu solennelle, et que là, il y ait un cachet du roi. Un cachet qu'il faut que l'intéressé qui reçoit la lettre doit briser. Enfin, on voit vraiment toute la scène. Mais vous savez, dès que Louis XIV décide de faire arrêter Fouquet, je suis presque sûr, vous savez, les historiens font toujours semblant d'être sûrs. Ils ont bien tort, ils ne sont jamais très sûrs. Mais bon, il y a une petite marge ou une grosse marge d'erreur, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a une petite marge d'erreur pour dire que lorsque Fouquet, le surintendant Fouquet, reçoit sa lettre de cachet, complètement d'ailleurs stupéfait, à l'initiative de Louis XIV, cette lettre n'a même pas de cachet. On est déjà dans une espèce de banalisation, alors que la lettre de cachet a encore ce côté exceptionnel, fait du prince. J'envoie mon D'Artagnan de service, mon brave mousquetaire, pour faire arrêter ce Fouquet qui me fait de l'ombre.
Alors justement, vous évoquez Fouquet. Avant d'en venir à la question du pouvoir et de la remise en cause de ce pouvoir et du rôle de la lettre de cachet dans cette situation, la lettre de cachet est indissociable de l'histoire administrative de la France. Et plus le pouvoir se centralise, plus la lettre de cachet semble avoir de l'importance.
Oui, c'est vrai que faire l'histoire de la lettre de cachet, ce serait faire en même temps l'histoire des institutions de l'Ancien Régime et des institutions en devenir de l'Ancien Régime. Lorsque l'Ancien Régime naît au XVIe siècle, et même encore au début du XVIIe siècle, il n'a pas les moyens qu'il aura à la fin du XVIIIe siècle. Il a encore moins la kyrielle des fonctionnaires d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il semblerait que le vent soit à la diminution. Donc, vous savez, je vous réponds en normand. Moi, je tourne toujours un tout petit peu autour du sujet avant d'entrer dedans.
Nos éditeurs ne savent pas que vous venez de Normandie.
Mais oui, mais vous voulez, personne n'est parfait. Et donc, les Normands aiment bien, pas forcément refuser de répondre, mais répondre en donnant plus de largeur, d'espace au sujet. Il y a un autre aspect. Par exemple, je pense au fisc, à toute la fiscalité de l'Ancien Régime. Les rois n'ont pas les moyens, n'ont pas les fonctionnaires qu'il faut pour être derrière chaque impôt, direct et indirect. Et du coup, marche la ferme générale, les fermiers généraux, ces espèces d'entrepreneurs du fisc qui vont être aussi mal vus que la lettre de cachet sous l'Ancien Régime, parce qu'ils vont prendre en régie, en ferme, ils vont affermer, c'est-à-dire ils vont donner tout de suite de l'argent à l'État, parce que les rois, c'est l'État. Et après, bon, ben avec la marge, en essayant de presser un peu mieux le citron, ils vont prendre la différence. C'est un peu la même chose pour les deux cachets. Le rapprochement peut paraître un peu fortuit, mais il ne l'est pas tant que ça. Le pouvoir royal, le pouvoir avec un tout petit p, la monarchie naissante, pas ce pouvoir à la Foucault, vous savez, cette espèce de monstre qui dévore tout le monde. Mais bien sûr que non, au contraire, on a un pouvoir royal balbutiant en enfance, et il n'a pas les moyens de sa politique, et il n'a peut-être même pas encore la politique de ses moyens. Et donc, bon, bah, pour le fisc, il délègue aux fermiers généraux, il vend un petit peu ses droits. Pour le droit, j'y viens enfin, vous voyez, comme le Normand finit par répondre à la question. Pour le droit, c'est la même chose. Le droit de l'Ancien Régime, rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours, que d'ailleurs je serais bien incapable de faire, moi je ne suis pas historien du droit, a des manques qui sont ceux des moyens, justement, de la monarchie. Alors, il y a quand même la justice, mais la justice criminelle qui vous tombe dessus parce que vous avez tué père ou mère, voire les deux. Et alors, à ce moment-là, bon, ça marche tout seul. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, bon, vous êtes condamné, on vous pend ou on vous décapite si vous êtes noble. Ça marche très bien. Mais ce qui marche pas très bien, c'est toute une espèce de, je prononce le mot avec de gros guillemets, de correctionnalisation. Une espèce de peine qui aujourd'hui relèverait de la correctionnelle et qui là n'existe pas parce qu'il n'y a pas de correctionnelle. Il n'y a pas de correctionnelle. Donc cette espèce de manque de correctionnelle, eh bien, il va être compensé par la lettre de cachet.
Est-ce qu'on peut parler de fait de petits délits ?
Oui, c'est ça. Quand je dis correctionnelle,
oui.
Je pense petit délit.
Oui, oui, oui.
Je pense petit délit. Alors, parce que, bon, aujourd'hui, bon, bah, vous allez voler chez qui vous voulez, votre antiquaire, votre boucher, votre confiseur. Bon, ils portent plainte, vous allez en correctionnel. Ce système n'existe pas sous l'Ancien Régime. Alors, d'un seul coup, vous entrez dans cette espèce de machine lourde qu'est la machine judiciaire. Et ce qui, moi, me fait un peu rire, d'ailleurs, puisqu'on parlait des mythes lorsqu'on a commencé l'émission, c'est que, bien souvent, les turiféraires du jacobinisme, de l'anti-monarchisme, vitupèrent la lettre de cachet. Il ferait mieux de vitupérer la justice. Parce que elle, alors là, elle est d'une sévérité terrible. Elle est d'une sévérité terrible puisque, de toute façon, la prison comme peine afflictive n'existe pas. Alors, c'est très embêtant, parce que si vous passez devant des juges et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une peine de prison, qu'est-ce qui reste ? Il reste la peine de mort, ou les galères, qui ne valent guère mieux, ou alors vous êtes relaxé. Mais ça, c'est quand même plutôt rare. Donc, il y a une espèce de manque qui fait que, au lieu d'accuser la lettre de cachet, au premier d'accuser, effectivement, une justice un peu lourde, un peu sommaire, un petit peu béotienne par rapport à cette justice d'aujourd'hui qui est si belle et si merveilleuse et qui marche si bien. Non, c'était juste histoire de faire preuve d'un tout petit peu de mauvais esprit.
Je reçois Claude Quettel, historien, auteur du livre « Les lettres de cachet, une légende noire », un ouvrage paru chez Perrin. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Jean Delumeau, Pierre-Sylvain Filioza, Paul Bernard, Jean Favier, Michel Zinc et Roland Recht, en entretien ou en séance, ces académiciens passionnés d'hellénisme, de médiévisme, d'archéologie, d'indianisme, de sinologie, d'orientalisme, d'égyptologie et d'histoire de l'art, partagent leur savoir. Retrouvez les membres de l'Académie des inscriptions et belles lettres sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée aux lettres de cachet. Je reçois Claude Quettel, auteur d'un livre sur les lettres de cachet visant à pourfendre un peu la légende noire et à resituer, hein, comme se doit de le faire l'historien, la procédure, car il s'agissait d'une procédure, dans son contexte historique. Vous avez publié, Claude Quettel, les lettres de cachet chez Perrin. Immédiatement, Claude Quettel, vous avez souhaité dans votre ouvrage lier la question de la lettre de cachet au pouvoir. Et vous commencez votre ouvrage par ces deux grands personnages qui en ont été victimes, Condé et Fouquet.
Oui, mais ça, c'est la lettre de cachet que j'appellerai...
Celle qui vise à protéger
d'Épinal, l'État. L'image oui. d'Épinal oui. de la lettre des cachets. Elle a existé, bien sûr qu'elle a existé. C'est ce que j'appelle, effectivement, dans un chapitre, le fait du prince. Bien évidemment que la lettre de cachet a été le fait du prince. Elle a même commencé comme ça. Et on ne saurait l'oublier. Oui, avec quand même un bémol. Hein. Bon, effectivement, lorsque Louis XIV décide de faire arrêter Fouquet, par lettre de cachet, on est dans tout ce qu'on veut, sauf dans une démarche de justice. Mais Fouquet, il est tout ce qu'on veut, sauf un petit saint. Hein. Bon, c'est un peu dur quand même, parce que Fouquet est un des rares hauts personnages qui ont été du côté du roi pendant la Fronde. Donc là, il n'y a pas une grande reconnaissance de la part de Louis XIV. Alors, l'histoire du château de Vaux, là, qui rend Louis XIV jaloux, bon, là, il faut laisser un peu de côté. Hein. Je pense que Louis XIV, tout simplement, fait que, bon, on est à quelques jours, quelques semaines, enfin, je ne sais plus, enfin, oui, quelques 10 jours de la mort de Mazarin, et Mazarin qui a énormément influé sur l'éducation de Louis XIV, lui dit il faut se débarrasser de Fouquet, entre parenthèses, ne serait-ce que pour mieux placer Colbert, ce qui fait que, bon, d'un côté, il y a Mazarin un petit peu, je dirais, cousin de Palerme, hein, un petit peu mafieux, un petit peu politicien, politique-politicienne, mais en même temps, donc, bon, d'un Fouquet qui n'est pas ni pire ni mieux que les autres, sauf que c'est le personnage le plus riche du royaume. Donc ça, c'est la caricature de la lettre de cachet. Alors, des lettres de cachet de ce genre, il va y en avoir d'autres, mais très rapidement, on va arriver à pratiquement, j'essaie de trouver des chiffres, parce que c'est toujours un peu difficile de donner des chiffres dans ce domaine, mais ça ne va même pas être 10%, ça ne va même pas être 1%. Très rapidement, dès le milieu du règne de Louis XIV, des lettres à l'initiative du roi sont de l'ordre de 0,1%. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'à l'initiative du roi ? Parce qu'on dit, oui, Louis XIV, vous voyez comment il se débarrasse.
On a l'impression, on donne toujours l'image d'une sorte de pouvoir centralisé, mais rien n'est plus faux que cela.
Attendez, Louis XIV, une lettre de cachet à l'initiative du roi, même lorsque le roi vieillit, c'est un gamin Louis XIV, au moment de l'arrestation de Fouquet. Lorsque Louis XIV vieillit et qu'il prend lui-même l'initiative d'une lettre de cachet, c'est souvent pour, par exemple, punir un courtisan qui a fait du scandale à la cour. On joue gros à la cour, on joue énormément. Et de temps en temps, il y a un courtisan qui est un mauvais perdant, un mauvais joueur, et qui commence à mettre des claques sur la figure de celui qui gagne. Bon, ça, allez, terriblement puni, oh, terriblement puni. 8 jours de Bastille, peut-être des fois 15 jours. Alors là, autre sujet, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, c'est cette Bastille où on était enfermé vivant. Alors, donc le monarque a un usage, comment on va dire, extrêmement limité de la lettre de cachet.
Alors justement, venons-en, parce que c'est un des intérêts de votre ouvrage, c'est que vous avez étudié les chiffres, vous parliez de chiffres tout à l'heure, il y a notamment ce tableau « Que deviennent les prisonniers de la Bastille ?» Donc vous avez vraiment fait une étude sociologique, d'abord de la s'il s'agit d'hommes, s'il s'agit de femmes, s'ils sont facilement libérés. Vous avez également le temps passé, vous parliez de 8 jours.
Ça peut être un peu plus.
Peut-on avoir une idée du nombre de personnes qui ont été touchées par les lettres de cachet à la Bastille?
Alors,
et qui ont été embastillés.
Alors, encore normand, il faut que j'élargisse un peu le champ. D'abord, il n'y a pas de prisonniers de lettres de cachet qu'à la Bastille. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la Bastille, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a en France entre un minimum de 500 et un maximum de 700 maisons de force où l'on retrouve des prisonniers par lettre de cachet.
Ce qu'on appelle une maison de force, au fond, c'est une prison.
Le mot prison ne fonctionne pas. Oui. Ne prononcez pas devant moi le mot prison, parce que je vais être obligé de vous embêter. Oui, c'est un anachronisme. Un lieu d'enfermement. Voilà. Bon, d'accord. Mais qui fonctionne par lettre de cachet. Donc, entre 500 et 700 maisons de force sous l'Ancien Régime, vous imaginez. Donc, la Bastille n'est que le plus connu, mais n'est que l'un de ces lieux. Mais je vous réponds quand même. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête parce que, comme on dit en Normandie, j'ai une pauvre tête. Et donc, je n'ai pas vraiment la mort des chiffres. Je dirais 5279 prisonniers par lettre de cachet dans une Bastille. Mais attention, sur 3 siècles.
Sur 3 siècles.
Ce qui veut dire que...
Donc, c'est rien du tout.
Ce qui veut dire que lorsque la Bastille joue à guichet fermé, c'est le cas de le dire, il y a 40 personnes. 40 personnes. Et ce qui veut dire qu'on n'est pas enterré vivant à la Bastille, on sort à... Allez, 80, j'ai beau dire je ne suis pas un homme de chiffres, j'ai quand même les chiffres importants en tête, 80-85% des prisonniers de la Bastille sortent à moins de 6 mois. En plus, quand on est prisonnier par lettre de cachet, parce qu'on est un journaliste, un écrivain qui a dit du mal du pouvoir, vous imaginez la promo, c'est formidable. Tous les prisonniers qui font 3 mois, 4 mois de Bastille par lettre de cachet parce qu'ils ont dit du mal du régime, ils disent alors après, mes livres, qu'est-ce qu'ils se vendent?
Et ils en profitent même pour écrire à la Bastille.
Et ils écrivent à la Bastille. C'est quand même assez extraordinaire, parce que lorsqu'on met à la Bastille, la police met à la Bastille des journalistes, enfin le mot journaliste est complètement anachronique, enfin des gens de plume qui ont écrit contre le régime. Alors, la lettre de cachet, on est tellement torturé à la Bastille, entre guillemets torturé, que vous demandez de l'encre et du papier, on vous en donne. Bah écoutez, moi, si j'avais été gouverneur de la Bastille, je n'aurais pas donné de l'encre et du papier aux gens qui écrivaient contre le régime.
Alors, vous donnez l'image, je ne vais pas dire d'une situation facile, il y a tout de même des différences de traitement, et vous en parlez d'ailleurs, des différences de traitement, que vous soyez puissant ou misérable. La noblesse est généralement mieux traitée que n'est, par exemple, le vulgaire roturier.
Oui, mais je dirais c'est normal. C'est normal. Je ne suis pas...
Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des quartiers VIP.
Mais oui, mais bien sûr que oui, qu'il y a des quartiers VIP. Je ne suis pas en train... Vous savez, la plupart des historiens aujourd'hui m'effraient, surtout sur la période contemporaine, c'est un autre sujet, parce qu'ils jugent le passé avec les lunettes du présent. C'est la pire chose, le pire crime qu'on puisse commettre en histoire. Il faut essayer de comprendre le passé avec les lunettes du passé. Si on comprend l'Ancien Régime avec lunettes de l'Ancien Régime, bien évidemment qu'il y a des privilégiés. Lorsque le cardinal de Rohan, après le scandale de l'affaire du collier, entre à la Bastille, vous imaginez, mais le gouverneur s'excuse quasiment de devoir le faire entrer à la Bastille. Il le fait dîner à sa table. Le soir, j'ai retrouvé des notes de champagne et d'huîtres, des dîners que le cardinal de Rohan donne à la Bastille. Bien sûr, si vous êtes un prince et un grand, et vous restez un prince et un grand à la Bastille. Mais si vous êtes à la Bastille et que vous n'êtes ni un prince ni un grand, vous êtes néanmoins bien traité par rapport à d'autres maisons de force et d'autres lettres de cachet, ce qui est une façon de vous répondre, une autre façon de vous répondre, où on est nettement moins bien traité. On ne parle pas, enfin moi si, j'en parle dans mon livre, mais de la Bastille des Mers. La Bastille des Mers, qu'est-ce que c'est que la Bastille des Mers? C'est le Mont Saint-Michel. Ce Mont Saint-Michel, aujourd'hui, si visité et si admiré des touristes, à l'époque, c'est une prison dure, très très dure. Là, on n'y met pas des privilégiés, on y met des gens qui sont censés être adversaires du régime ou des gens qui ont tendance à s'évader, des prisonniers qu'on pourrait appeler difficiles. Donc, il y a toute une espèce d'éventail de maisons de force à plus ou moins grand confort, à plus ou moins grande sévérité, à plus ou moins grande faculté de sortie, et qui font qu'il ne faudrait surtout pas dire lettre de cachet égale Bastille. Il y a aussi, par exemple, Vincennes, hein, qui est une espèce d'annexe de la Bastille.
Il y a toujours, on le voit bien à travers l'étude des sources hein, que vous avez faites, il est souvent difficile de se faire un avis, de trancher. Il y a, encore une fois, on doit faire preuve de nuance et les sorts ne sont pas les mêmes d'un lieu à un autre.
Non, ils ne sont pas les mêmes, ça dépend de beaucoup de choses. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que les lettres de cachet se multiplient radicalement dès la fin du règne de Louis XIV. Mais la fin du règne de Louis XIV, c'est déjà le début du XVIIIe siècle. Donc en fait, les lettres de cachet deviennent exponentielles, plus des centaines de milliers de lettres de cachet. C'est pour le XVIIIe siècle. Or, le roi a à ce moment-là, depuis longtemps, passer la main, si je peux dire. Ce n'est plus lui qui décide, c'est lui qui signe ou c'est son secrétaire dit de la main qui signe Louis, puisque chaque lettre de cachet quand même doit être signée. Mais la lettre de cachet n'est plus à la demande du souverain, elle est à la demande des familles de tout le royaume, et encore une fois, pas seulement des nobles, de tous ceux qui ont dans leur famille une veuve qui veut se remarier avec le premier valet, et donc ça va être la honte pour la famille, ça va surtout être un détournement terrible de l'héritage. Une fille qui suit les régiments, comme on dit, enfin une fille de mauvaise vie, un garçon qui se bat dans les cabarets, qui est ivre, un fou. Et là, effectivement, il y a aussi des fous qui sont visés par les deux cachets, mais parmi d'autres, etc., etc., etc. Ce que j'appellerais, moi, des crypto-délinquants, des gens qui ne sont pas encore dans les mains de la justice, mais qui vont bientôt y être, et que, pour empêcher qu'ils y soient, qu'ils y tombent, eh bien, la famille demande une lettre de cachet pour qu'on mette leur trublion dans un système de correction, et attention, en payant une pension. Ça limite quand même beaucoup les dégâts, il n'y a pas de sécu, là, hein. Et donc, vous avez un mauvais fils, une mauvaise fille, un mauvais époux, une mauvaise épouse. Attention, avec une demande circonstanciée et une enquête. Il ne faudrait quand même pas croire que tout ça se fait à Versailles, un petit peu par hasard. Au bonheur du jour, il y a des enquêtes, des contre-enquêtes. Moi, j'ai des enquêtes avec des subdélégués d'intendants qui s'en vont dans la neige au fond de l'Orne vérifier qu'un tel est bien fou. Mais tout ça se termine par un prix de pension, et le prix de pension, effectivement, détermine la maison de force. Alors vous avez le bas de gamme, la salpêtrière, Bicêtre. Alors ça, c'est le bas de gamme, hein. Ça, alors là, vraiment, là, vous êtes maltraité. Puis vous avez le très haut de gamme, vous avez des très belles maisons. Charenton est une très belle maison de force. Sachant que, encore une fois, pour revenir à la Bastille, c'est une prison d'État. Il y en a quand même beaucoup en France, il y en a d'autres, tous les grands châteaux. Le château d'If, il n'y a pas de Monte Cristo, mais il y a château d'If quand même, est une prison d'État. Là, c'est quand même en plus, là, plutôt réservé effectivement aux prisonniers dits du roi. Mais ils représentent quoi ? 3-4% des prisonniers par lettre de cachet sous l'Ancien Régime. 95% des prisonniers de lettre de cachet sous l'Ancien Régime sont à la demande des familles.
Un des aspects passionnants, et là on sort de la famille mais, et on rentre dans les idées, c'est le contrôle de la librairie.
Oui.
Alors là aussi, vous nuancez, d'ailleurs j'ai été surpris de voir que même Diderot critique les productions infâmes et les mauvais livres et en demande la saisie.
Oui, parce que le système de la librairie est très différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, les grandes libertés d'aujourd'hui, ça, on pourrait en parler longuement. Mais alors, bon, aujourd'hui, vous publiez ce que vous voulez, mais vous pouvez ensuite être attaqué pour avoir dit du mal ou avoir menti ou avoir diffamé. Bon. Sous l'Ancien Régime, ça marche à l'envers, c'est-à-dire que vous devez soumettre à autorisation pour qu'on soit sûr que vous n'êtes pas en train d'attaquer Dupont ou Durand. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour contrevenir à cette obligation, vous avez beaucoup d'auteurs et d'éditeurs qui publient en Hollande, enfin qui publient en dehors de la France. Et donc, il y a une très grosse partie de l'édition française qui fonctionne sous le manteau, sous l'Ancien Régime, qui d'ailleurs est très lu. D'ailleurs, le procureur qui fait brûler les livres d'un côté s'en fait mettre de côté 4 ou 5. Il n'y a pas de plus belle bibliothèque que la bibliothèque du procureur général du roi, puisque bien évidemment, il se fait mettre de côté tous les livres interdits. Donc, c'est difficile à comprendre tout ça aujourd'hui, quoi.
Je reçois Claude Quettel, auteur du livre « Les lettres de cachet, une légende noire », un ouvrage paru chez Perrin. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Ils furent confrères à l'Académie française. Jean d'Ormesson vous parle de Claude Lévi-Strauss. Écoutez le témoignage de l'écrivain à l'occasion du centenaire de l'anthropologue. Il fut son parrain, mais aussi son admirateur. Jean d'Ormesson vous livre des anecdotes et des moments riches d'humanité. Claude Lévi-Strauss par Jean d'Ormesson, une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée aux lettres de cachet. Je suis heureux de recevoir Claude Quettel, auteur d'un livre sur le sujet paru aux éditions Perrin, « Les lettres de cachet, une légende noire ». C'est ce que nous voyons depuis le début de cette émission et nous abattons énormément d'idées reçues sur ce sujet. L'histoire de ces lettres de cachet est indissociable. Je parlais tout à l'heure d'administration et un personnage va avoir toute son importance dans cette histoire des lettres de cachet, c'est le lieutenant général de police. Or, un personnage sort du lot, c'est D'Argenson.
Oui, bien sûr. Il y a deux multiplicateurs de la lettre de cachet, dès le règne de Louis XIV. Le premier multiplicateur, c'est le lieutenant de police et le deuxième multiplicateur, je le cite pour ensuite l'abandonner, c'est l'intendant dans les provinces, parce que le lieutenant de police n'est que de Paris. Donc, tout ce qui n'est pas de Paris, comme dirait monsieur de la Palice, est d'ailleurs, et par conséquent de la province. Donc, ces deux multiplicateurs sont très très importants, parce que ce sont eux qui vont relayer les demandes de lettres de cachet. Alors, pour revenir au lieutenant général de police, son institution, dès le début du règne de Louis XIV, avec la Rénille, qui est remplacée par D'Argenson, prend une importance extraordinaire parce que, d'abord, le lieutenant général de police de Paris, aujourd'hui, on verrait comme une espèce de super flic, c'est surtout pas ça. Le lieutenant général de police de Paris, à l'époque, c'est celui qui doit d'abord régler tout le problème de l'urbanisme, du ravitaillement de la ville, de tout ce qui concerne, finalement, la vie de cette ville énorme. Paris, sous le règne de Louis XIV, c'est la ville la plus peuplée du monde, 500 000 habitants. C'est énorme, 500 000 habitants pour l'époque. Et donc, l'Araignée va déjà faire beaucoup, notamment en matière d'urbanisme. En matière de lettres de cachet, assez peu. Il commence par Paris au plus pressé. Il commence par Paris à simplement déjà à faire vivre cette ville, l'alimenter en eau, en vivres. Et D'Argenson, lui, va passer effectivement à une étape plus difficile qui est celle de remettre Paris en ordre. Paris est devenue une ville très dangereuse. Une ville qui n'est absolument pas policée dans tous les sens du mot. Et très rapidement, D'Argenson va utiliser la lettre de cachet dont il va dire, et je trouve la formule extraordinaire, il dit « c'est l'instrument ordinaire de ma faiblesse ». Mais oui, parce que la lettre de cachet frappe dur et fort. La justice d'hier est comme celle d'aujourd'hui. Elle met des mois, pour ne pas dire des années, à agir. Et les malfaisants ont beau jeu de s'échapper, de fuir entre les mailles. Avec la lettre de cachet, paf, d'un seul coup, ça y est, vous êtes enfermé. Pas forcément à la Bastille. Encore une fois, la Bastille, c'est réservé pour le haut de gamme de la délinquance ou de la crypto-délinquance. Et ce qui va faire aussi le succès de D'Argenson, c'est que c'est un homme d'une grande intelligence, d'une grande culture, et qui écrit aussi des rapports qui sont d'une intelligence, qui sont d'un style, qui sont d'une élégance extraordinaire. Et le roi les lit. Et le roi aime ce qu'écrit D'Argenson. Et très rapidement, D'Argenson, qui n'a rien à voir en direct avec le roi, D'Argenson, lui, a à voir avec le ministre de la Maison du Roi, qui est Pontchartrain à l'époque. Mais très rapidement, d'ailleurs, Saint-Simon, avec la méchante langue qu'il caractérise, dit que Pontchartrain était devenu petit garçon sous D'Argenson, parce que le roi veut lire, donnez-moi des rapports de D'Argenson. Il se régale. Moi, j'ai retrouvé des archives extraordinaires. Je retrouve des... Alors, bien évidemment, ce n'est pas le roi qui écrit, parce que ce serait le roi de ce... Le roi n'a pas se commettre à poser des questions de ce genre. C'est Pontchartrain qui les pose de son côté. La lettre de cachet ne frappe qu'au dernier moment. La police est d'abord un instrument de surveillance. Et donc, Paris est complètement sous surveillance. La moitié du budget de la police va à la surveillance. C'est ce qu'on appelle les mouches, qui va donner Mouchard. On agit et on emprisonne encore une fois que lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, D'Argenson envoie des rapports. C'est drôle parce qu'il n'y a pas de publication récente de l'ensemble des rapports de D'Argenson, ce qui est un morceau d'anthologie, d'intelligence, d'ironie, de caustique, formidable. Et de temps en temps, il y a un rapport d'Argenson qui vient. Alors, parce que les demoiselles, je crois que c'était... Non, c'est pas Travers. Enfin, les demoiselles Truc, on va dire. Bon. Que sont devenues les demoiselles Truc? Leur charme a-t-il baissé? Donner des nouvelles. Non, mais vous imaginez, le roi vieillissant. On est à la fin du règne de Louis XIV qui s'intéresse à ce point aux petits potins, aux affaires people de Paris. Non, D'Argenson tient son monde, tient son roi, tient son Paris et tient en même temps une police intelligente, faite de surveillance. Et encore une fois, la lettre de cachet ne frappe que lorsque c'est nécessaire. Alors, avant même D'Argenson, par exemple, du temps de l'araignée, lorsque tombe l'affaire des poisons, alors là, d'un seul coup, attendez, on envoie 50, 60 personnes à Vincennes et à la Bastille. Lorsque D'Argenson décide de s'attaquer aux faux sorciers, ça c'est une des grandes trouvailles de D'Argenson, il met fin à la sorcellerie simplement comme une espèce d'eureka en disant, eh bien, les sorciers n'existent pas et ceux qui se prétendent sorciers, puisqu'il n'y a pas de diable, il n'y a pas de diablerie. Donc ceux qui se prétendent sorciers sont des faux sorciers. Et moi, je vais les arrêter simplement comme des criminels. Eh bien, il en arrête 40, 50, 60 la même année. Et d'un seul coup, avec par lettre de cachet. Et donc des espèces d'opérations coup de poing qui font qu'on passe d'une surveillance plutôt aimable et le roi qui s'intéresse aux demoiselles untel à des opérations d'une férocité et d'une efficacité qui aujourd'hui nous paraissent confondantes parce que là, garde à vue, tout ça, ça n'existe pas.
À vous écouter, on se demande au final, bon, il y a cette férocité, mais encore une fois, ce n'est pas pour rester longtemps emprisonné. Il y a très peu de Fouquet qui restent jusqu'à leur mort emprisonnés.
Alors, encore une réponse de Normand, ça dépend. C'est au cas par cas. Bon, Fouquet, il est évident qu'il ressortira jamais. L'affaire des poisons. Dès que les prisonniers des poisons mettent Madame de Montespan en cause, il est évident que, bon, ils vont peut-être échapper à la peine de mort, puisqu'ils vont échapper à la question préparatoire qui leur ferait dire que oui, Madame de Montespan, je la connais, Donc, ils vont échapper peut-être à ça, mais il est évident qu'ils ne ressortiront jamais. Par contre, les autres, tous les autres, c'est un peu au coup par coup. Tout dépend de l'ombre que vous projetez sur le pouvoir. Cet imbécile de Latude, j'avais fait un petit bouquin à une époque sur les évasions de Latude, qui s'évade, qui réussit cet exploit extraordinaire de s'évader, tenez-vous bien, deux fois de Vincennes, une fois de la Bastille. Alors, s'évader de la Bastille, ça vaut tous les sacrements. Hein. Ça, alors là, pour vexer jusqu'à la fin des siècles la police, là, il n'y a rien de mieux.
Il est récupéré en Hollande.
Oui, oui, parce qu'il est tellement parano qu'il pense qu'il a raison et il envoie des lettres au lieutenant de police pour donner son adresse pour dire qu'il demande des dommages et intérêts. Alors évidemment, il se fait piquer. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, des gens comme ça, ils sont considérés comme dangereux et le pouvoir n'a pas l'intention de les relâcher. Donc, on ne les relâche pas. Et puisque, de toute façon, il n'y a pas de condamnation à terme, et c'est ça qui va nourrir la légende de la lettre de cachet, eux ne ressortiront jamais. Enfin, en fait, si. Latude, il ressort un tout petit peu avant la Révolution. Parce que, bon, il est vieux, puis il a fini par intéresser un petit lobby autour de lui. Mais par contre, bon, tel grand seigneur qui a vaguement comploté, ou tel mousquetaire qui a fait du scandale à la cour, ou tel financier qui a fini par rendre gorge, on le relâche très vite. C'est du coup par coup. Ce qui est intéressant dans l'aide de cachet aussi, enfin ce qui est intéressant, on veut dire, cet instrument est tellement original qu'il a du mal même à être compris de nos jours, d'où son exécration, sa diabolisation, c'est qu'il fonctionne au coup par coup, puisque ça n'est pas une peine afflictive. Vous n'êtes pas condamné, justement, vous êtes en correction. Vous êtes un correctionnaire. D'ailleurs, les prisonniers par l'aide de cachet, on les appelle des correctionnaires. Alors, l'inconvénient, c'est que si les pouvoirs estiment que vous n'êtes pas corrigé,
vous ne ressortirez pas. Mais l'intérêt, c'est que bon, bah, si le pouvoir estime que vous êtes corrigé, vous ressortez très vite. Marmontel, après avoir extrêmement bien dîné à la Bastille, ressort au bout de quelques semaines.
Est-ce que, au fond, on comprend bien le rôle, j'allais dire, facilitateur de la lettre de cachet qui vise à ni plus ni moins que empêcher une peine beaucoup plus grave. Donc j'en viens à la question ultime, faut-il la condamner ? Et j'allais dire, quitte à me prendre les foudres de nos auditeurs, est-ce que aujourd'hui il n'y a aucune chose comparable dans notre justice ? Et la justice étant complètement engorgée comme on le sait, est-ce que n'est-ce pas au fond, j'allais dire, les maisons de correction telles qu'on les conçoit pour les enfants aujourd'hui, dont on a reparlé encore dans l'actualité ?
Alors là, vous avez le don de me désarçonner, là, parce que là, je ne sais pas trop comment vous répondre. Moi, je pense que la lettre de cachet, autant elle était acculturée, intégrée à la civilisation de l'Ancien Régime et ne faisant pas problème, l'attaque violente contre la lettre de cachet dans les cahiers de doléances, c'est une attaque tardive qui ne fait que répercuter une minorité, les parlementaires évidemment, que les parlementaires sont contre la lettre de cachet et ça les prive d'une partie de leurs compétences. Les philosophes, ben évidemment, qui sont contre, puisque comme libellistes, ils sont souvent punis par la lettre de cachet pour avoir désobéi aux règles de la librairie. Dire que ce système pourrait aujourd'hui ou avoir une espèce de, non pas de survie, mais d'équivalence, de résonance, ça me paraît difficile parce que effectivement, on est dans le problème de la chose jugée. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, on n'est pas prisonnier du tout des codes. Code de civil, code pénal. On le voit bien, tiens, on parlait d'Argenson tout à l'heure. D'Argenson, dont Saint-Simon disait qu'on ne savait pas ce qu'il avait de plus noir de ses yeux, de sa perruque ou de son âme. Donc c'était un personnage tout à fait craint, mais c'est quelque chose qui, déjà sous l'Ancien Régime, fonctionne avec des critiques, mais qui fonctionne bien parce qu'on n'est pas prisonnier de la lettre. On n'est pas prisonnier du droit. On est dans l'esprit. Parce que, bon, par exemple, D'Argenson est un maître des requêtes, est un magistrat, est un homme d'une grande intelligence, d'une grande culture. Et donc, le roi lui délègue des pouvoirs parce qu'on sait qu'il va les utiliser avec intelligence. Je pense que ce type d'institution, aujourd'hui, n'est pas exportable. Je dirais par défaut d'intelligence, si je voulais vraiment être désagréable.
Alors, à défaut de se porter aujourd'hui, revenons-en à la Révolution française. Comment expliquer le fait qu'une telle institution, mais dans le sens propre, c'est-à-dire vraiment une chose acquise, ait été remise en cause de la sorte pendant la Révolution française ? Et au-delà, pourquoi elle a été assimilée au pouvoir monarchique alors que vous venez d'affirmer que 0,01% des lettres de cachet venaient du roi ?
Par mauvaise foi révolutionnaire. Les révolutions sont forcément de mauvaise foi. Les révolutions ne vont pas commencer à dire « Ah ben oui, mais alors quand même, il y avait ça qui était pas mal. » Elles ne peuvent que diaboliser ce qu'il y avait avant. Et donc la lettre de cachet est facile à diaboliser puisqu'elle est déjà attaquée avant même la révolution. Je vais vous donner un exemple simple et caricatural, certes. Lorsque, effectivement, la Bastille est prise, sans s'être défendu d'ailleurs, vraiment, on trouve 7 prisonniers. Bon, c'est pas beaucoup, 7 prisonniers. Alors, on cherche partout, parce que pratiquement la Bastille, il y avait un plan d'urbanisation qui déjà avait prévu la place de la Bastille. Enfin, pas prévu l'opéra de la Bastille, mais la place de la Bastille, elle était prévue, qui serait appelée place Louis XVI. Mais donc, il fallait faire disparaître cette prison qui était déjà complètement hors du temps. Et les révolutionnaires cherchent partout des preuves de ces prisonniers torturés. Et ils trouvent une presse de librairie qui a été saisie, justement, avec des mauvais, guillemets à mauvais livres. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Ils en font un instrument de torture. Alors effectivement, si vous mettez les doigts de quelqu'un sous la presse de librairie, ça fait mal. Il n'y a jamais eu de torture, il n'y a jamais eu l'ombre d'une torture à la Bastille. Mais les révolutions ont leur logique, et donc elles ont besoin d'adversaires, elles ont besoin d'images, elles ont besoin d'icônes, elles ont besoin de légendes noires. Et là, elles en ont une qui est toute trouvée, qui est celle des lettres de cachet.
Eh bien, merci beaucoup Claude Quettel pour ces précisions et pour votre travail auquel je renvoie nos auditeurs. Les lettres de cachet, un ouvrage paru chez Perrin. Et je cite également votre autre ouvrage chez Talendier, L'histoire de la folie, paru en 2009. Et enfin, la réédition de votre ouvrage sur la Bastille, Histoire véritable de la Bastille, paru chez Larousse. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.